selon toi, c'est une lecture assez compliquée de ce qui se passe dans cette zone tampon au Rojava, ce qu'on appelle également la Fédération du Nord et de l'Est de la Syrie. Selon toi, à quoi faut-il s'attendre pour ces prochains temps? Il y a eu très récemment encore une offensive syrienne à Idlib qui pourrait faire sauter l'accord Russie-Turquie. Il y a récemment encore eu des violents combats entre les soldats de Damas et d'Ankara avec des morts. Il y a tout cela, dans tout cela, une crise humanitaire terrible avec, on l'a vu, hein, on avait déjà fait une première interview où on nous parlait de bombardements, d'utilisation de phosphore blanc, mais également de, d'infrastructures et notamment d'usines hydrauliques qui étaient touchées, donc avec tout ce que ça peut amener, avec un déplacement de population terrible, avec vraiment la volonté de diviser les populations en y amenant justement, eh bien, en déplaçant les populations. Alors, de ton point de vue, depuis la commune internationaliste, comment est-ce que tu lis ce qui se passe actuellement au Rojava?
À mon avis, il faudrait aussi prendre par phase, parce que c'est quand même une question assez complexe que tu me poses là d'un coup. Il y a beaucoup de sujets, mais on peut y aller graduellement. En tout cas, dans les faits actuels, ce qui se passe pour l'instant à Idlib, il faut quand même essayer de comprendre qui et qu'est-ce qu'attaque le régime syrien. Parce que on peut voir actuellement que la zone contrôlée par Idlib a différentes factions, dont une qui est des plus importantes, c'est quand même une des branches d'Al-Qaïda qui gère cette région-là. La Turquie a beaucoup de bases, en fait, de son armée dans cette, ils appellent ça des points d'observation dans cette zone. Et il y a aussi des restes de l'Union syrienne libre. Mais en gros, ces gens qui se sont rebellés en 2011 dans ces zones-là. Donc, on voit actuellement que ce conflit entre la Turquie, la Syrie et la Russie, donc la Russie est côté syrien, exprime plus ou moins un espèce de jeu entre ces puissances pour la contrôle de ces régions. La Turquie contrôle certaines zones et alliée avec, via en fait, Muslim Brotherhood, frères musulmans de certaines de ces factions-là. Et il y a un jeu qui est en train de se passer pour essayer de contrôler certains territoires. Ils donnent certains territoires à la Syrie. Mais en même temps, on a une présence d'une force extérieure. La Turquie est quand même militairement présente en Syrie. Et donc, la Syrie essaie de récupérer ces endroits-là. Mmh. La population locale, bien sûr, est la première qui en paye le prix. Donc, cette tension-là peut monter. Mais en même temps aussi, on ne sait jamais avec ces accords entre ces grandes nations. Peut-être c'est déjà arrangé depuis le début et puis ils sont juste en train de prendre 2-3 territoires et après ça va se calmer. Ou peut-être c'est une escalade qui va s'annoncer. Donc là, c'est vraiment des situations où on ne peut pas prédire à l'avance ce qui peut se passer. Mais là, en tout cas, c'est un moment de forte tension en tout cas, qu'on vit actuellement. Dans l'administration de Syrie et au Rojava, on est encore un peu épargné, même si maintenant, actuellement, la zone d'Afrin, beaucoup de villages se sont bombardés. Mais pour le Rojava, pour l'instant, on attend de se faire attaquer par les Turcs, et c'est vraiment la menace présente et la plus grande menace, c'est vraiment cette attaque turque. Certains l'annoncent sur Kobané, certains l'annoncent en avril, certains l'annoncent le 15 février pour la commémoration du complot contre Chalam. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans une situation de tension. Les États-Unis qui ont annoncé récemment soutenir pleinement la Turquie, nous savons que ce ne sera pas nos alliés si une guerre commence. Et pour l'instant, on va dire, on s'attend à la guerre. C'est vraiment la situation globale du pays, c'est vraiment une attaque de la Turquie. La suite de leur opération, là, ils ont déclaré la fin du cessez-le-feu. Erdogan a déclaré la fin du cessez-le-feu. Mm-hmm. Si la Syrie ne respectait pas et ne se retirait pas de ses positions, c'est fort peu imaginable. Donc, on peut imaginer que dès que ce cessez-le-feu est terminé, ils peuvent s'en prendre au Rojava. Il a cette mentalité, c'est-à-dire vraiment impérialiste, dont d'augmenter son, on va dire, de recréer cet empire ottoman. On voit avec l'invasion de la Libye, il envoie des troupes turques en Libye. Il n'envoie pas que des troupes, il envoie aussi des mercenaires liés à différentes organisations fondamentalistes islamiques. Donc nous avons vraiment une situation où nous regardons plutôt du côté turc et la menace pour nous vient du côté turc. Ça va être très difficile, à mon avis, d'éviter ça, car il est, lui, en Turquie, dans une situation de tension. Il y a beaucoup d'opposition qui se font en Turquie. Il essaie de durcir sa ligne à l'intérieur du pays. La population turque énormément. Mais ce qui s'y passe, c'est que cette situation intérieure, en fait, la Turquie force Erdogan, s'il veut continuer sa légitimité, à avoir certaines victoires. Et malheureusement, il se peut que se tourne vers nous, et puis militairement, avec le soutien de l'OTAN qu'il a, ce sera difficile pour nous. Nous ne lâcherons jamais, nous n'abandonnerons jamais. Mais le beau jour ne s'annonce pas, en tout cas, si la Turquie reste.
Qu'en est-il ? Alors, on le sait, le Kurdistan est une entité qui est à cheval sur plusieurs pays, sur quatre pays dans la zone géographique dont on parle. Derrick, vous n'êtes pas si loin de la frontière irakienne. Y a-t-il Alors, qu'en est-il des Kurdes de Turquie ? Qu'en est-il des Kurdes d'Irak ? Y a-t-il des solidarités qui ont cours ? Des Kurdes d'Iran également ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce que de l'entraide est imaginable ? En cas, justement, de conflit déclaré, y aurait-il des refuges vers lesquels vous pourriez converger ? Et actuellement, qu'en est-il, justement, du ravitaillement, des médicaments, toutes ces choses-là ?
Je profite, juste parce qu'il y avait la question d'avance sur... l'eau, par exemple, et posez la question actuellement sur les médicaments et les ravitaillements. C'est assez important de comprendre qu'en fait, cet embargo contre le Rojava est un but et c'est une guerre économique qui s'y passe. Et cette guerre économique, elle peut se passer sur différents fronts. Par exemple, en Turquie, il y a énormément de barrages qui se sont construits, parce qu'il y a deux grandes rivières qui partent de la Turquie pour prendre une fois la Syrie et une l'autre. Et par exemple, le débit d'eau est très important parce que ça nourrit les centrales électriques, ça nourrit l'agriculture et c'est vraiment quelque chose de crucial. Et en fait, ces débits d'eau sont baissés parce que c'est vraiment le but d'asservir le plus possible et de rendre Rojava dépendant des voisins. Mmh. Et par là, en fait, de les forcer à changer leur politique. Donc il y a vraiment des gros efforts qui sont menés de notre côté pour se rendre autosuffisant et pour relocaliser énormément de la production, pour réorganiser l'agriculture, plus pour se rendre autonome. Et l'important, c'est cette autonomie-là. Après, nous avons un autre problème sur la frontière irakienne. Le problème, en fait, c'est que le peuple kurde est solidaire sur certains points, mais il y a aussi certaines fractions, on va dire, pas dans la même ligne. Nous avons, par exemple, le Barzani, qui est en fait le clan Barzani qui, on va dire, règne sur une partie qui jonche la Syrie et qui est concomitante, qui lui est ouvertement plutôt pro-turc et pro-américain. Et on va dire qu'il y a un certain manque de solidarité de cette faction-là envers le peuple kurde, une situation plutôt, on va dire, à l'intérieur et de s'isoler et de penser à sa propre survie, à son propre bien. Qui rend en fait les passages à la frontière difficiles et qui augmente en fait cet embargo, parce qu'il faut savoir que les frontières sont aussi fermées par eux. Donc il y a à l'intérieur du peuple kurde aussi des forces qui sont différentes et qui ne sont pas, on va dire, révolutionnaires. Donc c'est un jeu à essayer de faire et de différentes forces dans le peuple kurde, et il y a une grande unité, mais il y a quand même certaines personnes qui se battent. Après, en Turquie, actuellement, dans les montagnes, le mouvement kurde est toujours présent, la guérilla est toujours là, elle mène des actions, il y a de forts combats, et c'est très difficile parce que on combat avec peu de moyens, face à la deuxième plus grosse armée de l'OTAN, face à des moyens logistiques et face à des moyens technologiques assez conséquents. Mais la guérilla reste et la guérilla persiste, et ça va faire plus de 40 ans qu'ils sont dans ces montagnes et qu'ils ne lâchent pas. Et c'est quelque chose de très inspirant à mettre pour nos luttes occidentales. Mm-hmm. Après, au niveau du Kurdistan iranien, il y a eu un cessez-le-feu qui a été déclaré en 2013, il y a plus d'armée officielle, mais la communauté kurde a une situation un peu différente que en Turquie. Elle a le droit à sa culture, elle a le droit à sa langue, mais pas à une autonomie. Donc, on fait partie, de la nation iranienne, ça va. Et dès qu'on demande une certaine autonomie, une certaine gestion en fait, autonome, là, ça pose vraiment problème. Parce que le but actuel du mouvement kurde, ce n'est pas le Kurdistan, mais c'est une autonomie, en fait. Une certaine autonomie, une certaine manière de vivre qu'on puisse leur laisser se gérer eux-mêmes. Et ça, par exemple, est fortement reposé en Iran. Et en Turquie, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de personnes qui vont en prison, même de parler kurde dans les villes turques est problématique. Mmh. Où on peut se faire dénoncer, agresser, le racisme anti-kurde existe et est très très fort. Le régime turc est vraiment assez oppressif et de mon point de vue, un des régimes les plus virulents, de mon point de vue, c'est actuellement un des régimes qui enferme le plus de journalistes. C'est un régime qui a vraiment... qui enferme des étudiants, qui enferme les syndicalistes, des profs d'université, c'est une dictature qui s'installe gentiment et qui est bien installée, selon moi. Donc c'est pour moi un peu la situation autour. Après, pour tout ce qui est médicaments et différents moyens de se procurer, les gens ne meurent pas de faim, on a en fait réorganisé l'agriculture et nous avons un peu le grenier de la Syrie, donc on a une sur ce point-là et on a quand même réussi à trouver des moyens de sortir de ces embargos, de sortir en fait de cette oppression et de reprendre en main la production. En fait.
Merci pour toutes ces informations-là. Si tu es d'accord, encore une dernière question concernant la situation en général et puis ensuite on parlera vraiment de la commune internationaliste. Selon toi, voilà, on est dans ce fameux silence assourdissant de la communauté internationale, des instances internationales. Voilà, comment est-ce qu'on peut se solidariser? De quelle manière est-ce que, eh bien, voilà, des choses pourraient changer? Quels sont les leviers sur lesquels peser? Est-ce que ce sont, selon toi, eh bien, les Kurdes de l'étranger qui sont ici en Europe qui peuvent et qui agissent par ailleurs, qui sont extrêmement actifs? L'ONU, c'est compliqué. D'où pourrait venir l'aide? Comment se solidariser?
Alors, un petit mot d'abord sur l'ONU et est-ce que cette communauté internationale, il faut vraiment, à mon avis, abandonner l'idée que l'aide ou une solution pourrait venir de ces instances-là.
D'accord, donc
ces
là...
instances-là, ou vraiment, je veux dire, suivre le capital, suivre les intérêts des classes dirigeantes. La Turquie a envahi une partie de la Syrie, les accords de l'ONU l'interdisent, mais pourtant c'était permis. L'ONU est vraiment une espèce de mascarade. La communauté kurde est vraiment active et fait vraiment des choses et dans un quotidien. Après, pour les gens qui nous écoutent de la radio et qui sont ici, je pense qu'il y a différentes organisations qui sont intéressantes. Par exemple, nous avons Make Rojava Again, des actions de Rise of Rojava, organisées dans presque tous les pays d'Europe. Il y a ces organisations-là, à mon avis, qui sont faites pour les gens qui intéressent, pour rentrer en contact avec le mouvement, pour si vous avez des moyens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, la révolution et la guerre, ça coûte de l'argent et qu'il y a un besoin de solidarité pour différentes structures, la commune internationaliste aussi. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs structures actuellement en place en Europe pour soutenir ce mouvement et pour se solidariser. Et bien sûr, après, la communauté kurde, elle est à des événements de la communauté kurde aussi, très important parce que, principalement, je dirais, Rise of Rojava, Make Rojava Green Again sont quand même des portes d'entrée à ces festivals.
Merci beaucoup. Alors, dis-moi, parlons un petit peu de... Enfin, déjà, on pourrait juste annoncer, on en profite, pour annoncer que dès le lundi 10 février à 12h, ici à Genève, à la Place Neuve, eh bien, il y a la longue marche pour la liberté de Calan. Donc... eh bien, il y aura à ce moment-là un petit programme que nous mettrons, nous, sur le site internet de la radio pour que les personnes locales puissent y aller. Il y aura une conférence de presse, également un morceau de marche, hein, parce que cette marche va de Genève à Strasbourg. Et il y aura des conférences de presse, également un concert, un moment un peu festif, etc. etc. Ça, ce sera donc à Genève le 10 février à midi, depuis la Place Neuve. Alors, à la commune internationaliste, voilà, combien êtes-vous? Et puis, est-ce que la plupart des gens... Toi, tu as dit que tu étais là depuis 2 mois. La plupart des gens, d'où viennent-ils?
Alors là, nous sommes à peu près une vingtaine. crois que nous venons principalement là de tête. Nous sommes des Européens, il y avait des Américains, il y avait une personne d'Irak. Principalement, nous sommes des Européens. Mmh. Nous avons plus ou moins une parité, je crois, nous sommes de femmes. Il y a l'âge varie entre 20 et 35 ans. Et nous, l'Europe. Il y a un camarade qui vient d'arriver, qui arrive du Kazakhstan.
Ah, d'accord. Nous sommes vraiment
très multiples. Et ils sont, il y en a, c'est différent. La personne qui a le plus de points, elle a 3 ans. Et sinon, il y en a qui sont arrivés aujourd'hui.
Très bien. Et dis-moi, a priori, les personnes qui viennent, est-ce qu'elles sont là pour quelques mois ou au-delà? Voilà. Combien de temps est-ce qu'on reste a priori?
La durée minimale, normalement, c'est 6 mois. Uh-huh. Après, il y a des gens qui sont là pour 3-4 mois. C'est spécial, mais normalement, la règle, plus ou moins, c'est si on vient, c'est quand même un engagement de la part de la communauté internationale d'organiser les voies et ces choses-là. Après, le temps qu'on apprenne la langue, qu'on s'intègre, qu'on comprenne ce qu'on va faire. Okay. Et après, il y a des gens qui restent un peu plus. Il y a des gens qui se voient, comme je dis, des gens qui viennent pour 6 mois et après, ils ne sont plus avec partout.